Femmes libres.
Femmes qui se libèrent.
Femmes qui prennent la parole.
Femmes qui témoignent.
Femmes qui créent.
Femmes qui se révoltent.
Femmes qui luttent.
C'est Femmes libres
sur Radio Libertaire.
Reconnaissons-nous les femmes. Parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, on nous opprime les femmes. Ensemble, libérons-nous. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout.
Ces femmes libres sur Radio Libertaire.
Bonsoir à toutes et tous. C'est la 8e émission de cette année 2026, émission féministe et anarchiste pour combattre le patriarcat, le capitalisme, les religions, tous les pouvoirs qui nous oppriment, nous exploitent, nous discriminent. Nous sommes sur Radio Libertaire pour 2 heures d'antenne de l'émission Femmes Libres. Et Radio Libertaire, c'est la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste.
Ouais!
Avec Agnès aux manettes.
Salut.
Voilà, l'émission c'est tous les mercredis entre 18h30 et 20h30. Et pour nous suivre, nous avons un blog, émission-femmeslibres.blogspot.com. On peut ainsi réécouter les émissions, avoir le programme, mais on peut aussi nous suivre sur Facebook et Miss Cloud. Alors le programme de ce soir, de Ève à Philomène, sans oublier les autres, c'est Colette Magny qui sera portraitisée par Sylvie, qui est absente, mais qui nous a envoyé ce portrait. Et c'est à l'occasion du centenaire de la naissance de Colette Magny. Ensuite, nous recevrons dans le cadre d'une co-animation avec Mariama de Pas-de-Quartier, nous recevrons Monique Pinson-Charlot pour le livre « Dans les beaux quartiers ». Et j'ai envie de faire évidemment le jeu de mots. Pas-de-Quartier reçoit « Dans les beaux quartiers
hein ». Merci.
Voilà. C'est un livre qui parle de l'entre-soi des élites et qui a été co-réédité en 2025 par deux maisons d'édition, la rue de l'Échiquier et les Voies urbaines. Voilà. Et puis après, des informations, des communiqués, des rendez-vous. Et on lance de Ève à Philomène, sans oublier les autres, Colette Magny.
De Ève à Philomène, sans oublier les autres. Philomène, c'est mon arrière-grand-mère. Elle était chef de gare dans les années 1900 et on disait d'elle que c'était une femme de tête qui faisait un métier d'homme. Il y aurait donc des femmes sans tête et des métiers de femmes. Ma rubrique va à la rencontre de toutes ces femmes sans tête qui, depuis la nuit des temps, ont été invisibilisées.
Julie, Juliette ou bien Justine, toutes mes rimes féminines. Clara Zetkin, Anaïs Nin ou Garbeau dans la Reine Christine. Sur le céleste carousel, choisir entre ces demoiselles, Camille Claudel, Mamselle Chanel, ou l'enragée Louise Michel, vivre encore Colombe ou Rapace, écrire, chanter ou faire des passes, Margot Duras, Maria Callas, ou bien Kiki de Montparnasse. Naître demain, renaître hier, en marche avant, en marche arrière, m'incarner dans ses divergences, ses beautés, ses intelligences, et jouir du bienheureux trépas, pour dans leurs pas mettre mes pas. Musidora, la Pavlova, ou mon aïeul, la grande gueule Teresa. Que j'en ai l'esprit ou l'aspect, ou bien même les deux, s'il vous plaît. Juliette Drouet, la signore, ou la grande Millionidée. Tout voile dehors et en chantant, avec l'une d'elles me révoltant, Flora Tristan, Yvonne Printemps, la farouche Isadora Duncan. Pour toute arme ayant leur fierté, pour amante la liberté, les Cervantes, Loïs Labé, ou Louandrea Salomé. Même s'il faut en payer le prix, être la fleur, être le fruit, être Alice Guy, être Arletty, Marie Dubas, Marie Curie.
Dans la famille Coup de Poing, Ferré, c'est le père, Ribeiro, la fille, Lavillier, le fils, et moi, la mère. Cette phrase, c'est Colette Magny qui la lançait, une voix féministe et rebelle, née en 1926 à Paris et disparue trop tôt en 1997. Il y a 100 ans donc, naissait celle qui fut bien plus qu'une chanteuse, une force politique, une pionnière, une insoumise. Chanteuse de blues, de free jazz et de chansons françaises, elle a bousculé les codes, exploré sans limite, créé sans compromis. Autrice, compositrice, multi-instrumentiste, elle a choqué, fasciné, marqué son époque. Pourtant, l'histoire a failli l'effacer. Trop libre, trop en avance, trop dérangeante. Fille de Georges Magny, directeur de coopérative, et de Fernande Collas, actrice de théâtre, Colette grandit entre Paris, Reims et Boulogne-Billancourt. Rien ne la prédestine à la scène. Elle mène d'abord une vie rangée, études solides, anglais impeccable. De 1948 à 1962, elle est secrétaire bilingue à l'OCDE. « Je n'avais pas lu un journal jusqu'à 30 ans », confiera-t-elle. Une employée sérieuse, efficace, invisible. Pourtant, le blues la sauve. Handicapée par une obésité précoce, elle trouve refuge dans les voix de Bessie Smith et Billie Holiday. Le blues, ce n'est pas une musique triste, c'est une musique de survie, dit-elle. Et, encouragée par le clarinettiste Claude Luther, elle s'essaie à la guitare à trois cordes et commence à composer. La musique afro-américaine lui offre une reconnaissance. Une façon d'assumer une voix hors norme, grave, rugueuse, qui vient du ventre, de là où on a mal, dit-elle. Tout bascule en 1956. Un soir, elle assiste à l'attaque d'un meeting sur la guerre d'Algérie par des activistes d'extrême droite et sous l'œil complaisant de la police. Le lendemain, aucun journal n'en parle. À partir de là, j'ai lu la presse tous les jours et c'est le début de son engagement. Les Noirs américains m'ont appris qu'on pouvait transformer la colère en beauté sans l'édulcorer. À 36 ans, elle quitte l'OCDE et se lance dans la chanson. « Je ne chante pas pour distraire, je chante pour que les gens se réveillent. » Elle débute à la Contrescarpe, un cabaret de la rive gauche, avec un répertoire anglais. Mireille la remarque et l'invite au Petit Conservatoire. Et sa prestation de mélocotone en un blues en apparence léger, mais déjà chargé de critiques sociales, la propulse au hit parade. Le melon, c'est bon quand c'est bien mûr, mais les patrons nous prennent pour des poires, chante-t-elle. Le succès est fulgurant. En avril 1963, elle éclipse Sylvie Vartan à l'Olympia, mais elle refuse de devenir Lella Fitzgerald Blanche. « Je n'ai jamais chanté le blues pour faire américain. Je le chantais parce que je me reconnaissais dans cette douleur-là. » CBS, son label, veut capitaliser sur Mélocotone. Mais elle impose ses textes politiques. « Vive à Cuba »,« Choisis ton opium »,« Le mal de vivre », une chanson sur l'aliénation sociale. « Ça pue, ça pue, ça pue, le mal du vivre. Dans les villes, dans les usines, dans les bureaux, bien rangés. » Le titre est censuré par l'ORTF et elle en tire une leçon. La neutralité, c'est déjà un choix politique. En 1964, Colette Magny rompt avec CBS et elle rejoint alors le Chant du Monde, un label proche du Parti communiste où elle peut mêler blues, poésie et engagement politique
loin des attentes commerciales. Elle devient alors l'une des rares voix de la protest song en France. Elle chante le Vietnam, Cuba, les mouvements révolutionnaires. Vietnam, Vietnam, ton nom claque comme une balle dans la bouche des puissants, chante-t-elle. Et elle enregistre des disques qui deviennent des archives des luttes sociales. Frappe ton cœur, Vietnam 67. Elle invente un style de collage sonore mêlant slogans et récits de lutte. À Saint-Nazaire, par exemple, évoque des luttes ouvrières et Bura Bura, les victimes d'Hiroshima. Et elle dit « Quand on comprend ce qui se passe dans le monde, on ne peut plus chanter n'importe quoi ». Et elle ne se contente pas de chanter, elle va là où les luttes se vivent, à la fête de l'humanité, dans les MJC, les usines occupées, les bassins miniers. « Je suis un petit pachyderme de sexe féminin », lance-t-elle avec autodérision. Sa voix, son corps, ses textes prennent de la place. « Je ne veux pas être une star, je veux être une voix ». Rapidement étiquetée gauchiste, emmerdeuse, elle est dénigrée, censurée, absente des antennes. Pourtant, elle sort 12 albums contre vents et marées, dont « Répression » en 1972, dédié aux Black Panthers. En mai 68, elle est sur tous les fronts. Dans la chanson « Mai 68 », justement, elle chante sa peur et sa place dans l'histoire. « Un soir, je revenais de chanter. On m'a téléphoné. Il y avait des blessés. Des gosses matraquaient. J'ai eu peur. Je ne suis même pas allée ramasser les blessés. Dans les usines, je me suis planquée. Pour les travailleurs, chanter. » Son disque « Magny 68-69 » est un collage sonore, un journal de lutte. Elle refuse l'image héroïque du révolutionnaire. « Je n'ai jamais cru que l'art devait être au-dessus de la mêlée. Moi, je suis dedans, jusqu'au cou. » Elle chante dans les maisons de la culture, les mines en crise, les comités de soutien. Les militants, c'est pas ceux qu'on montre à la télé, c'est ceux qui tiennent quand tout craque. Et autour d'elle, des figures comme François Tusk, Catherine Ribeiro, Ariane Mouchkine ou Ernest Pignon. Ernest. Et avant de continuer, je vous propose d'écouter Colette Magny, donc chanter « Nobody knows you when you are down and out ».
Millionaire, spending my money, I didn't care. I carried my friends out for a good time, buying bootleg liquor, champagne and wine. When I began to fall so low, I didn't have a friend and no place to go. Squeeze it and squeeze it till the eagle grins. Nobody knows you when you're down and out. In my pocket, not one penny. And my friends, I haven't any. But if I ever get on my
Colette Mani ne se contente pas de politiser ses textes, elle révolutionne la structure même de la chanson. Avec Feu et rythme, qui a obtenu le Grand Prix de l'Académie Charles Cros, et Répression, elle explore le free jazz, les textes scandés, la violence policière. Et elle chante Répression, ça commence toujours par des mots polis. Et avec Transit, en 1975, elle explose le format couplet-refrain pour des collages sonores et des improvisations. Je n'ai jamais aimé les chansons bien rangées. J'aime quand ça déborde. Je ne fais pas carrière, je fais ce que j'ai à faire. Si les gens ne comprennent pas, tant pis. Je ne vais pas simplifier ma pensée pour être applaudie. Et elle invente la chanson chronique, montage de documents, slogans, témoignages ouvriers, comme dans Penaconga avec les grévistes de Penaroya, sa voix devient un outil de résistance, un micro tendu vers les opprimés. À une époque où l'on attend des chanteuses qu'elles soient jeunes, minces et souriantes, Colette Mani impose l'inverse. Une femme qui chante fort, qui pense fort, qui parle fort, ça dérange plus qu'un homme. Je n'ai jamais voulu être séduisante, je voulais être juste. Son féminisme est une pratique, prendre la parole, occuper l'espace, refuser la douceur obligatoire. On ne pardonne pas facilement à une femme d'être en colère. Cette attitude lui vaut censure et marginalisation. Ses disques sont rayés des ondes et rayés au sens propre. Pourtant, elle continue de chercher, de surprendre. Visage Village, de 1977, mêle rock et accordéon. Dans Je veux chanter, en 1979, est un projet singulier avec des enfants et des instruments bricolés. Dans Chanson pour Titine, 1983, une autre nuance de sa voix apparaît, plus tendre, plus intime, mais toujours lucide. Elle chante « J'ai porté trop de colère, mais je n'en ai jamais eu honte ». Elle revient aussi vers des formes de jazz blues épurées, tout en expérimentant le parler-chanté, anticipant le spoken word. Elle pose sa voix sur des thèmes écologiques et sociaux jusqu'au texte rappé d'Inédit 91 sur le péril écologique. Mûri pendant 20 ans, Kevork, son dernier album, naît de sa rencontre avec Jean-Marie Lamblard, un éleveur de pintades. « Cet oiseau, dame de voyage, condamnée à l'errance, est à mon image », confie-t-elle. Le disque, financé par souscription, explore l'esclavagisme, le racisme, la grossophobie, mais aussi la liberté dans les relations amoureuses. On est marginalisé, forcé de lutter. C'est peut-être pour cela que personne n'a voulu de main pintade, avoue-t-elle en 1989. Colette Mani a brisé les tabous. Dès 1967, dans La Dame du Guerveur, elle ose chanter son amour pour une femme, s'inspirant d'une légende bretonne. Elle est venue un soir, avec ses yeux de braise et son cœur en exil, c'est l'une des premières déclarations d'amour lesbien dans la chanson française. En 1979, elle apparaît dans le premier numéro de la revue lesbienne Désormais et assume « Moi, si j'aime une femme, c'est parce que c'est une femme ». Et sans se revendiquer militante, elle incarne une liberté qui inspire. « Ton amour est le poumon de ma liberté ». En 1984, invitée dans l'émission « Champs-Élysées », elle fait un coming out bisexuel en détournant un standard. Mais j'ai rencontré Titine et j'ai le cœur content. En 1989, dans les Kevork, elle glisse Sphinx de nuit, une chanson d'amour adressée à une femme où sa compagne se métamorphose en papillon nocturne. Sphinx de nuit sauvage, unique, royal et mauve, pour séduire, tu te déguises au carnaval des orchidées. L'orchidée, fleur nocturne évoquant le sexe féminin, devient le symbole d'une liberté sensuelle. Elle ose même aborder le vieillissement amoureux. « Ne te farde pas, je peux supporter d'entrevoir la mort sur ton visage. » Et comme le souligne la journaliste Hélène Azera, « Dans le répertoire lesbien, il y a toujours une revendication, même derrière une histoire d'amour. Ici, la déclaration échappe au grand public, mais pas aux oreilles averties. » Jusqu'au début des années 1990, Colette Mani continue de se produire, mais son corps usé par la maladie et des douleurs chroniques finit par la trahir. Elle se retire dans le Tarn-et-Garonne, à Verfeuille-sur-Seille, pour continuer à créer. Cette fin de parcours révèle la manière dont une société traite les artistes qui refusent les normes. Elle paie le prix de son intransigeance. Pourtant, même affaiblie, elle ne renonce à rien. Je n'ai aucun regret. J'ai fait exactement ce que je pouvais faire. Si c'était à refaire, je referais pareil. Peut-être encore plus violemment. Colette Magny s'éteint le 12 juin 1997 à 70 ans à Villefranche de Rouergue. Elle laisse derrière elle une œuvre inclassable. Du blues, du free jazz, des chansons engagées, des pièces expérimentales. Une œuvre qui ne cherche ni le consensus, ni la postérité facile et qui, précisément pour cela, ne peut pas disparaître. Colette Magny n'a jamais été une artiste comme les autres. Punk avant l'heure, féministe avant le mot, elle a traversé la chanson française comme un ouragan. De Mélocotone à Kevork, elle a transformé chaque note, chaque cri en une arme au service des opprimés. Elle a osé tout dire, l'amour lesbien, la colère ouvrière, la révolte écologiste. Je chante car j'en ai besoin. J'ai envie d'ouvrir ma gueule et beugler. Je ne suis pas une chanteuse, je suis une voix qui crie là où on l'étouffe. Lançait-elle, résumant d'un trait son rôle dans la musique et dans la société. Son approche rappelle bien avant leur émergence l'esprit des Riot Girls des années 1990. Comme ces punks féministes américaines qui hurlaient « Girls to the front », Magny a refusé d'être séduisante, polie ou acceptable. Elle a chanté pour celles qu'on fait taire, mêlant poésie, colère et engagement sans jamais édulcorer ses propos. Longtemps reléguée aux marges, son œuvre est redécouverte dans les années 2000 par des rappeurs, des slameurs, des féministes. Une anthologie de 10 CD paraît en 2018 et des festivals comme Colette Magny Fike lui rendent hommage. Des artistes aussi variés que Thurston Moore ou Catherine Ribeiro se réclament de son héritage. Alors pourquoi Magny résonne-t-elle encore aujourd'hui? Parce qu'elle a incarné bien avant son temps l'art comme résistance. Une femme qui a fusionné Rimbaud et le free jazz, les Black Panthers et les mineurs du Nord, l'écologie et le féminisme. Écoutez, Colette Magny, c'est accepter l'inconfort, écrit-on souvent à son sujet. Mais c'est aussi comprendre que la colère, la liberté et la poésie peuvent changer le monde. Aujourd'hui, alors que les luttes pour la justice sociale, l'écologie et les droits des minorités sont plus urgentes que jamais, son héritage n'est pas un souvenir, c'est un appel. Ma voix n'est pas faite pour séduire, mais pour crier à la place de celle qu'on a fait taire. Chanter, c'est comme respirer. Si on m'empêche de le faire, je meurs. Et comme les Riot Girls après elle, elle nous rappelle que l'art doit déranger pour faire avancer l'histoire. Et comme elle l'écrivait dans La Vivante, « Je ne suis pas une sainte, je suis une vivante qui marche sur les braises des mots qu'on a brûlés. » Et d'ajouter, avec la rage qui la caractérisait, « On m'a toujours dit, tais-toi, tu es une femme, tu es grosse, tu es laide. » Alors, j'ai décidé de crier trois fois plus fort.
Cinq, sept nuits sauvages, unique, royal et mauve. Pour séduire, tu te déguises au carnaval des orchidées. Tu ne te laisses pas intimider. Qui j'aime me crée, qui m'aime me crée. J'ai tout à te dire, et c'est à toi que je le dis. Ma grisante, mon ange de printemps, ne me laisse pas en suspens. Tu es de ces gens de mer dont l'eau peut être meurtrière. De ces grandes tenailles de béton, le port a grignoté la baie, les chalutiers dans les zones de pêche se perdent en haute mer, le ressac par tes lèvres m'apporte les nouvelles des fonds sous-marins. Attentive aux méandres et boucles de ta vie. Face au vent, je narguerai l'onde de tempête. Le héros et le monstre ne font qu'un. Ne t'affarde pas, je peux supporter d'entrevoir la mort sur ton visage. Ton amour est le poumon de ma liberté. Plus tard, nous boirons le vin, nous en craignons encore trop l'ivresse. Sphinx de nuit, sauvage, unique, royal et mauve. Pour séduire, tu te déguises au carnaval des orchidées. Tu ne te laisses pas intimider.
Eh bien, on vient d'écouter de Ève à Philomène, sans oublier les autres, le portrait de Colette Magny. Bon, Colette Magny, qu'on a adoré, bien sûr, qu'elle est morte en 1997 avec bien trop tôt, quoi. Voilà. Maintenant, avant de passer la parole à Monique Pinson-Charlot pour son livre Dans les beaux quartiers, bonsoir quand même, bonsoir. Monique.
Bonsoir à vous.
Voilà, et en compagnie de Mariama.
Bonsoir à tous et toutes.
Eh bien, on va écouter Les Inconnus, parce que d'habitude, on met que des chansons de femmes, mais là, franchement, j'étais obligée de mettre Les Inconnus, Auteuil, Neuilly, Passy.
Ah ben oui.
Mec, je me présente, je m'appelle Charles-Henri Dupré. J'habite à Neuilly dans un quartier mal paumé. Je suis fils unique dans un hôtel particulier. C'est la croix, la bannière pour me sustenter. Pas un arabe du coin, ni un euro marché. Haute Neuilly, Passy, tel est notre ghetto.
Mais mec, mon nom à moi, c'est Hubert Valéry. Patrick Stanislas, duc de Montmorency. À 5 ans et demi, j'avais déjà ma Ferrari. Je pouvais pas la conduire, bien sûr, j'étais trop petit.
As-tu saisi, mon pote, notre envie de révolte?
J'ai envie de crier zut en flûte. Te crantant.
Chier.
Auteuil et Passy, c'est pas du gâteau. Auteuil et Passy, tel est notre ghetto.
Salut, tu vas bien. Salut, tu vas bien.
Y'en a marre du fauchon,
du hédiard,
du saumon,
du caviar.
Salut, c'est Patrick, elle est pareil. Ouais, c'est Pat, tu vas bien.
Et moi, tu ne sais pas quelle est ma vie. À côtoyer Chantal ou bien Marie-Sophie. À faire le baisement à des pétasses mal baisées. Enfin, j'ai voulu dire des filles un peu coincées.
Je veux être un voyou, vrai de vrai en la loi.
Mais quand t'es né ici, vous n'avez pas le choix.
Y'en a marre des Millet,
des Golen,
des Sylvine,
Gwendoline,
des Glantine,
Marie-Chantal.
Y'en a marre, mon frère, on a de gros problèmes.
Y'en a marre, mon frère, de subir le système.
Mon avenir à moi est déjà tout tracé. Boîte privée, Sciences Po, l'ENA ou HEC. Et dans le pire des cas, si je ne travaille pas, faudra que je reprenne la boîte de papa.
Salut, tu vas bien?
Auteuil Neuilly Passy, c'est pas du gâteau. Auteuil Neuilly Passy, tel est notre ghetto.
Hey mec, nous sommes tous les produits d'une société économique dépendante des fluctuations boursières qui déstabilisent le marché.
Oui, mec.
Et pour sortir de ce carcan économique capitaliste, il faut savoir dire non, 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 mec.
Salut, tu vas bien?
Auteuil Neuilly Passy, c'est pas du gâteau. Auteuil Neuilly Passy, tel est notre ghetto. Auteuil Neuilly Passy, c'est pas du gâteau. Auteuil Neuilly Passy, tel est notre ghetto.
Salut, on tue, on va virer en vlog.
Nous sommes issus d'une famille qui n'a jamais souffert. Nous sommes issus d'une famille qu'on ne peut plus souffrir. Nous sommes issus d'une famille qui n'a jamais souffert. Nous sommes issus d'une famille qu'on ne peut plus souffrir.
Eh bien, voilà, une belle entrée en matière pour accueillir Monique Pinson-Charlot. Nous sommes ravis de t'accueillir, bien sûr. Et c'est un entretien que nous co-animons, Mariama de l'émission Pas de quartier et moi-même, Hélène de l'émission Femmes libres. Alors, c'est pour ton ouvrage « Dans les beaux quartiers », écrit en 1989 avec ton mari et réédité en 2025 grâce à la réunion de deux maisons d'édition, hein, rue de l'Échiquier et les Voies urbaines. En 1970, Louis Aragon avait signé une préface. Les beaux quartiers, ils sont comme une échappée aux mauvais rêves de la pince noire de l'industrie. Puis, Éric Vuillard signe là une préface. La face cachée de notre subordination, c'est le titre de sa préface. Alors, disons, l'émission Pas de quartier reçoit, accueille dans les beaux quartiers, ça c'est pour le jeu de mots, hein, et nous venons d'écouter, bien sûr, pour commencer cet entretien, les inconnus dans Auteuil, Neuilly, Passy. Mais tu voulais donner quelques propos d'Éric Vuillard.
Oui, tout à fait. Page 10, il dit ceci. Ce portrait de notre temps est particulièrement inquiétant. Les forces anciennes, l'aristocratie contre-révolutionnaire sont toujours là. Au centre des choses, bien campés de leur fauteuil club à quelques pas de l'Assemblée nationale et souvent même sur ces bancs, farcis de préjugés austères, inflexibles et bénéficiant des privilèges très concrets et qui leur semblent naturels de posséder, comme si la Révolution française n'avait finalement pas eu lieu. Au long de cette première enquête, je note les paroles extravagantes d'un notable. « Dieu merci, il existe encore des gens pour lesquels le mérite personnel n'est rien. » Tout est dit.
Et donc les puissants, ils vivent loin de nous. En tout cas, nous, on n'habite pas du tout à l'ouest. On habite bien loin. Dans une société presque distincte, dont les lieux nous sont souvent inaccessibles, dont nous ignorons les codes, les stratégies, les goûts. C'est une ségrégation féroce que l'on nous décrit. Ça, c'est ton livre. Hein. C'est une ségrégation féroce. Voilà. Alors, est-ce que tu peux, pour démarrer, nous rappeler ce que sont les beaux quartiers, géographiquement parlant, avant de dire qualitativement qu'est-ce qu'il y a dedans?
Les beaux quartiers se sont développés au fil de l'histoire. On changeait au fil de l'histoire, disons qu'ils étaient plutôt dans le Marais, et puis petit à petit, ils ont évolué vers l'ouest de Paris et l'ouest de la région parisienne, parce qu'il y avait beaucoup de terres conventuelles, il y avait beaucoup de terres maraîchères qui étaient libres, et ce qui est très important pour eux, c'est qu'un beau quartier, une commune exceptionnelle ne peut être conçue et construite que par des dominants, pour des dominants. Parce que l'urbanisme grand bourgeois, l'urbanisme aristocratique, est un urbanisme spécifique avec du social urbain, des rues qui sont des avenues, qui sont très larges. Tout est pensé dans le cadre d'un véritable séparatisme des riches vis-à-vis des autres populations alentour, dans un séparatisme également sociologique, c'est-à-dire que c'est réservé précisément au Gotha. Et tout cela fait que, on peut dire que le pouvoir de l'argent permet justement d'avoir un contrôle très serré, très important sur l'espace. Le pouvoir social est un pouvoir sur l'espace. Et ça ne date pas du tout d'aujourd'hui. Ça date depuis toujours. Tout s'est passé dans ce séparatisme qui ne s'appelait pas séparatisme à cette époque-là. Mais c'est très important parce qu'il faut toujours, mais toujours, c'est une condition pour le système capitaliste, que les détenteurs des titres de propriété qui se transmettent de génération en génération, de quartier de noblesse en quartier de bourgeoisie, au sein de dynasties familiales au fil des siècles, il est très important qu'il ne soit jamais, le moins possible, jamais, en contact avec leurs dissemblables. Ils doivent toujours être entre eux pour arriver à entretenir leur conscience de classe. Pour arriver à entretenir, je vais vous choquer en vous parlant comme ça, mais c'est le résultat de nos enquêtes, pour entretenir une forme de communisme, de luxe et de pouvoir tout en haut de la société et qui fonctionne dans une solidarité dont j'expliquerai tout à l'heure les modalités concrètes de fonctionnement. Mais dans un premier temps, voilà, je voulais montrer que ces familles possédantes des titres de propriété qui ne doivent jamais ruisseler vers les classes moyennes et les classes populaires doivent vivre entre elles pour se rassurer, pour construire en permanence leur supériorité, un sentiment de supériorité et d'excellence, afin qu'elles puissent passer de la domination économique à ce que Bourdieu appelait la domination symbolique. La domination symbolique, c'est quand on reconnaît effectivement aux membres de cette classe sociale au sommet des richesses et des pouvoirs d'être en effet supérieurs aux autres et donc d'avoir droit à l'exploitation et à la domination de classes sans partage.
Une oligarchie, quoi.
Une oligarchie. Merci, Mariana.
Je t'en prie.
Aujourd'hui, c'est une oligarchie, oui.
Voilà. Ouais, et c'est pour ça qu'il faut connaître les codes, les stratégies, les goûts, et que ça s'entretient, parce que sinon...
ça se perd.
Ça se perd, oui.
Bon. Alors, dans les beaux quartiers... Comment vous avez réussi, les deux éditeurs et toi-même, à avoir le prix Goncourt 2017 comme préface? C'est la curiosité.
Ah, c'est la curiosité de Mariama.
Oui.
Ah non, mais moi-même, j'ai été tellement surprise et tellement heureuse.
Mais oui.
Quand j'ai su que Xavier Capodanno, qui connaît bien Éric Vuillard, était arrivé à le convaincre. Et puis moi-même, je lui ai envoyé à Éric, je lui ai envoyé notre livre. Et puis il a été...
charmant.
Il s'est senti, en tant qu'historien... qui est à la fois un historien, un sociologue et quelqu'un qui de juste par rapport aux divisions et aux inégalités sociales, eh bien, il a été touché par cet ouvrage et franchement, il a fait une très très belle préface.
Oui.
Enfin, moi, le jour où je l'ai reçu, j'avais vraiment les larmes aux yeux.
Ah, j'ai bien fait de poser la question.
Oui. Je t'en remercie.
Mais je t'en prie. Donc, l'éco-poche. Donc, on a oublié de dire le prix. Un prix très symbolique de 14 euros.
Oui. Et pour un livre conséquent. Hein.
Mais oui,
oui. Conséquent. Alors, moi, j'avais une question, mais vraiment au début. Je sais que tu le dis dans le livre, mais je trouve qu'il faut que les auditrices et les auditeurs l'entendent de ta voix. Comment vous avez réussi à rentrer dans ce milieu? Comment vous avez réussi à en sortir?
On n'a pas eu le choix. Hein, pour en sortir.
Voilà, exactement. Je sais qu'une fois que le livre a été écrit, beaucoup de livres écrits, vous ne pouviez plus les fréquenter.
Alors, je dirais exactement les circonstances de cette rupture. Donc, on est en 1900, au début des années 80, et puis Michel et moi, nous avions toujours fait le projet ensemble. Je pense que ça faisait partie d'un espèce de pacte d'amour. Pour des raisons spécifiques à Michel et pour des raisons spécifiques à Monique, que nous, on mettrait de la chair et du sang et des réseaux sur le squelette de la domination. Parce que Michel était un fils d'ouvrier d'une famille très pauvre des Ardennes et franchement, il n'avait pas du tout vocation à devenir directeur de recherche au CNRS. Il était tellement pauvre, il a dormi au pied du lit de ses parents pendant jusqu'à ses 18 ans. Enfin, vraiment, c'était des conditions de promiscuité, de très dures pour quelqu'un qui cherchait à penser, qui cherchait à réfléchir. Et du coup, il s'est construit une espèce de bulle symbolique en lisant beaucoup, en écrivant un journal, pour essayer de se sauver de cette situation. Et il en a beaucoup souffert. Donc voilà. Et puis moi, j'ai souffert autrement. Je suis issue plutôt de la bonne petite bourgeoisie de province, mais disons dans des familles où le patriarcat était quand même vraiment triomphant, et où quand on était né fille, c'était plus difficile. Et moi-même, j'ai été élevée en Lozère. Et sans possibilité d'aller ni au cinéma, ni au musée, je ne lisais que des livres d'un monsieur qui s'appelait Cronin, qui travaillait beaucoup sur des médecins. C'était un peu... Enfin, c'était niais-niais et ça ne m'apprenait pas grand-chose. Et puis, comme mon père était le seul qui avait le droit de parler à table et qu'il avait appris le droit par cœur et qu'il était quand même procureur de la République, et puis après, il a eu des fonctions encore plus élevées à l'échelle de la France. Du coup, moi, je me suis dit, ben, ma fille, t'as pas à te poser de questions, puisque tu vas apprendre par cœur les cours des profs, et puis comme ça, tu seras première en classe, et puis comme ça, un jour, toi, tu ne dépendras pas d'un homme pour mener ta vie. Voilà, ça s'est passé comme ça jusqu'en 1963. Je suis née en 46, et en 1963, mon père est muté à la Cour de sûreté de l'État. Et du coup, on est obligé de partir s'installer à Lille. Et là, je tombe en classe de philosophie avec une professeure qui s'appelle Noëlla Baraka, qui était à peine plus âgée que moi. J'avais 17 ans et elle en avait 22, agrégée de philo. Et puis, elle faisait des cours en se baladant dans la classe, debout, nous parlant de Sartre, de Marx, de Hegel. Alors, Hegel, la théorie du maître et de l'esclave, moi, je me suis dit, ben là, j'ai l'impression que j'en connais un bout. Mais j'avais jamais eu accès à la réflexion. J'avais senti des choses dans ma vie, hein, mais je n'avais pas eu accès. Je ne comprenais pas que les institutions pouvaient être contestées. Pour moi, c'était quelque chose qui était
impensable.
Oui, c'était naturel, quoi. J'arrivais même pas. Et donc, cette révolution, pour moi, intellectuelle, que Michel, lui, avait vécue toute seule, s'était construit tout seul, il avait cette capacité de réflexion que je n'avais pas, a été révélateur. Et puis je me suis dit, ben, ma fille, c'est le bonheur absolu. Là, je vis, je comprends pourquoi je suis sur cette terre. Et jamais, jamais je n'oublierai ces moments de révélation liés à cette professeure de philo. Et de fait, c'est ce que j'ai tenu le pari.
La philosophie t'a libérée, la mère des sciences.
Voilà.
Et du coup, comment vous avez fait pour rencontrer tous ces aristocrates, grands bourgeois, pour faire vos enquêtes?
Alors ça s'est passé petit à petit. Parce que après mes études à Lille, que j'ai eu mon bac, j'ai fait de la sociologie. Et c'est là que j'ai rencontré Michel, dans la bibliothèque de sociologie de l'Université de Lille. Et je sais pas, il y a eu un espèce de coup de foudre entre nous. On s'est toujours demandé comment c'était possible, parce que lui, il était plutôt grand et bel homme. Et moi, j'ai toujours été petite avec ma frange et puis mon look à moi. Mais enfin, ça s'est passé comme ça.
Alors, si je peux me permettre, oui. Il y a une phrase de Saint-Ex qui résume bien ça. L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec son cœur.
C'est super, c'est ça. C'est ça. Et puis, on a décidé de vivre ensemble. On est partis travailler ensemble tous les deux pendant 2 ans dans le désert du Maroc. Michel faisait son service militaire, il était coopérant. Et puis, voilà, moi, je l'avais accompagné. Et là, on a fait tout un travail ethnologique un peu influencé par Pierre Bourdieu auprès de jeunes berbères, de familles berbères du désert. Et puis, au bout de... Enfin, voilà. On voulait faire quelque chose de très ethnologique, donc on l'a fait. On a fait notre maîtrise ainsi, sur ce sujet, en montrant que le colonialisme, on est donc en 1967... Le néocolonialisme, le Maroc est indépendant depuis 1956, mais les changements n'étaient vraiment pas visibles.
Ils ne le sont toujours presque pas.
Voilà. Et donc, on a fait un travail qu'on a présenté ensuite en rentrant en France comme travail de maîtrise. Et là, notre impertinence a commencé à être repérée par les institutions parce que nous n'avions fait qu'une seule maîtrise signée de Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot. Oh. Et quand Jean-Claude Passeron, notre directeur de maîtrise, a vu ça, il a dit « Ah non, ça, c'est pas possible ». Donc, on a dit « C'est pas grave, on avait prévu votre refus », on lui a dit. Et donc, on a coupé la maîtrise en deux. Donc c'était prévu, la première partie c'était pour Michel, la deuxième partie c'était pour Monique. Et puis on a quand même une autre maîtrise, et puis là on s'est mis à chercher du boulot, et on en a trouvé, ma foi, assez vite, puisque la maîtrise a été soutenue le 2 septembre, et le 8 septembre, ça se passe en 1970, on signe notre contrat dans un laboratoire qui s'appelle le Centre de sociologie urbaine, où nous sommes restés pendant 37 ans, jusqu'à notre retraite. Dans le même laboratoire. C'est quelque chose que je tiens à souligner parce que je pense que nous sommes les seuls à avoir fait ça. Parce que si vous voulez, la concurrence est telle dans ces milieux, des concurrences absolument, j'ai trouvé ça trop dur. Eh bien, on est content d'avoir tenu bon le cap, d'avoir tenu bon la vague et d'arriver jusqu'au bout à la retraite avec beaucoup de livres écrits et des enquêtes super qu'on est arrivé à faire.
Et donc, vous étiez tous les deux au CSU, le Centre de Sociologie Urbaine du CNRS.
Non, alors il se trouve que le 31 décembre 1975 à minuit, exactement, Giscard d'Estaing était devenu président de la République et il y a eu une circulaire, la circulaire Sourdi, dont j'oublierai évidemment jamais le nom, qui disait que les chercheurs sans statut qui émargeaient sur l'enveloppe recherche des ministères avaient vocation à être intégrés au CNRS. Parce qu'on était très engagé dans le marxisme, on était très engagé à gauche, et je pense qu'il y avait derrière cette proposition fort sympathique pour nous, il y avait cette idée de nous mettre dans une institution qui allait peut-être mieux nous cadrer que notre fonctionnement en autogestion, où nous avions tous les mêmes salaires, y compris les secrétaires. Enfin bref, des ex-68ards absolument en phase avec leurs engagements.
Ouais. Des clous, comme dirait l'autre.
Hein?
Ça a été des clous, c'est-à-dire que vous n'avez pas changé.
Ah ben bon, on a essayé d'être. Enfin, on n'a pas essayé, on est comme on est. Hein. Mm. Et donc, voilà, toute l'équipe est rentrée, y compris les secrétaires, les documentalistes, enfin, grâce à notre directeur de laboratoire, Paul Rendu, qui va avoir une importance que je vais essayer de décrire. Qui était un homme de la grande bourgeoisie de Neuilly, très fortuné, et qui était membre du Parti communiste, qui s'était fortement engagé dans la guerre d'Algérie comme porteur de valises, enfin, etc.
Du réseau Janson.
Voilà. Et avec lequel on s'est mis à travailler parce qu'on le trouvait trop, trop sympathique et très bon sociologue, parce que dans les milieux de la grande bourgeoisie, on est toujours en train de parler, de formuler, de chercher les bons mots pour bien expliquer les situations. Donc on aimait bien ces contradictions et du coup, moi j'ai beaucoup travaillé avec lui, Michel a beaucoup travaillé avec lui, puis au cours de nos conversations et tout ça, il nous disait, bah, écoutez, moi, si un jour vous vous décidez à réaliser votre rêve, puisqu'on lui avait dit qu'on voulait travailler sur la grande bourgeoisie et la noblesse, sachez que je serai toujours là. Et donc, c'est comme ça.
C'était la porte d'entrée.
Voilà, une des portes d'entrée pour la grande bourgeoisie. Mmh. Et puis moi qui suis lausérienne, au cours d'une insomnie une nuit, je me suis rappelé qu'au mois d'août arrivait à Mende chaque année une fille de mon âge qui ne ressemblait pas du tout aux personnes qui étaient en Lozère. Elle était grande, mince, elle avait un fond bien dégagé. L'été, même sous la chaleur, elle portait des gants blancs, voire même peut-être des bas blancs, enfin ça j'en suis pas sûre, un petit sac, enfin elle était très très différente de ce que nous on était. Et du coup je me suis dit, essaye de retrouver sa trace parce que peut-être qu'elle pourrait nous aider. Et finalement j'arrive à retrouver sa trace par des amis, elle nous reçoit chez elle Et elle dit, je suis... Alors, elle venait de se marier avec un comte très lancé dans la sociabilité mondaine à Paris. Donc, elle était parfaite. Donc, on avait la grande bourgeoisie et la noblesse. Et là, nous voilà partis à faire des entretiens. Et comme on avait bien réfléchi, qu'on avait construit un plan, enfin, on était beaucoup allé marcher à Neuilly, dans le 7e, dans le 8e, dans le 16e, prenant des notes pour bien être prêt le moment où on se lancerait dans les entretiens. Au moment où on s'est lancé dans les entretiens, on avait tous les codes, on savait ce qu'il fallait faire. On a essayé d'être coopté en étant à la fois nous-mêmes et respectueux des personnes auprès desquelles on menait les entretiens, et notamment en utilisant beaucoup le principe de la cooptation sociale. C'est-à-dire que dans cette classe sociale, tout est basé sur la cooptation. À partir du moment où vous êtes né dans ce milieu, après tout le reste, pour habiter ici, pour obtenir tel job, pour rentrer dans tel cercle, dans tel rallye, il faut être coopté systématiquement. Même si vous en faites partie, c'est un système de cooptation qui est absolument de tous les instants pour justement...
Éviter de défrayer la chronique, si j'ose dire.
C'est exactement ça. Et donc voilà, et puis on a, comme on était tous les deux à deux, on forme aussi comme une forme de petit communisme, un petit communisme familial avec notre fils. Et du coup, on s'est retrouvés. Alors, notre travail n'était pas très bien reçu par rapport à nos collègues, mais nous, comme on était décidés à faire ce travail, que c'était trop important pour nous, hein, pour notre propre psychisme, pour notre propre bonheur existentiel, l'un comme l'autre, ce partage-là, c'est cela qui explique notre endurance pour tenir bon la vague et pour aller jusqu'au bout.
Oui, parce que je suis allée à la présentation à la librairie, l'autre librairie, j'ai oublié son nom.
À Tout Livre ?
À Tout Livre.
D'accord.
Où vous expliquiez...
c'est comme ça que je me disais que je t'avais déjà vu.
Mais bien sûr.
D'accord.
Paquet de Kleenex.
c'est parce que je t'avais offert un paquet de Kleenex ?
Non, c'est l'inverse. C'est moi qui te l'avais offert.
Et qu'est-ce que j'en ai fait ?
Tu l'as gardé, j'espère.
Ben, je sais pas, c'est toi qui viens de me le mettre.
Oui, mais à la librairie aussi.
Ah bah tu es mignonne, mais comment veux-tu que je me rappelle de tout ça? Je comprenais pas pourquoi elle me foutait un paquet de Kleenex. J'ai cru que j'avais la...
Bon, là, c'est privé de joke.
Voilà, hein. Tout à fait.
On va revenir au livre, peut-être.
On va revenir au livre. À Tout Livre, tu expliquais que les premiers travaux, Michel Pinson, ton époux,
oui,
était reçu comme un dieu, parce qu'il avait travaillé sur les gens très précaires.
Oui.
Et à partir du moment où vous avez changé de milieu, c'était plus pareil.
Ouais.
J'aimerais que tu le présentes bien à nos auditeurs. Parce que dans le milieu de la sociologie, les sociologues ont passé quasiment 30 ans à parler des gens sans, S-A-N-S. Mmh. Mais il n'y a que vous, finalement, qui avez pensé aux dominants. Mmh. C'est ça qui fait votre particularité et votre richesse, si je puis me permettre.
Oui, oui. Je dirais que, comme je l'ai un peu dit, ça a fait partie vraiment de... parce que le mariage et la vie ensemble, c'est pas non plus toujours qu'une partie de chatouille, je veux dire, il y a des difficultés, tout ça. Mais nous, vraiment, ce qui nous a liés à la vie, à la mort, c'est ce projet. Ce projet, nous, on le fera. Mais ça n'était pas recevable par l'institution. C'est-à-dire que, pour deux raisons. La première, c'est que la classe dominante n'avait pas vocation à l'investigation sociologique. on pouvait, Pierre Bourdieu avait avancé beaucoup de choses au niveau théorique. Il y avait Monique de Saint-Martin qui travaillait sur une famille, la famille de Brissac spécifiquement.
Et ça a donné La Sainte Famille, excellent livre, voilà, que je recommande.
Exactement. Il y avait sûrement d'autres personnes que j'oublie et je m'en excuse, mais c'était toujours une partie. Tandis que Michel et moi, notre projet, c'était vraiment d'attraper la classe sociale dans son entièreté, dans l'ensemble de tous les secteurs de l'activité économique et sociale dont elle occupait à peu près systématiquement à cette époque les pôles dominants. Et il y avait une double impertinence derrière ce projet. Il y avait trois impertinences. La première, c'était qu'on avait décidé et d'annoncer au CNRS qu'on travaillerait en couple, ce qui n'est jamais bien vu, parce qu'on croit toujours que c'est soit la bonne femme qui fera rien, soit le bonhomme. Enfin voilà, que ça se fera au détriment l'un de l'autre, que ça ne peut pas tenir. Ensuite, que là, comme je l'ai déjà dit, que la classe dominante n'a pas vocation à être soumise à l'investigation sociologique.
On se demande pourquoi.
On est bien placé aujourd'hui pour savoir pourquoi. Mm-hmm. Hein, je ne dis rien. Et la troisième raison, c'est que c'est une forme de psychothérapie institutionnelle que nous faisions. Mm-hmm. Parce que comme le découpage au CNRS est par discipline,
voilà.
C'est donc une pensée complètement substantialiste. Vous avez la sociologie, l'économie, la science politique, l'ethnologie, l'anthropologie, l'histoire, la géographie, etc. Et que nous, on était obligés, évidemment, de balayer tous ces découpages.
Tout à fait.
Voilà.
Et ça fait la richesse de votre travail.
Voilà.
Tous vos ouvrages, c'est tout le même découpage.
Ouais.
C'est parfait. Et c'est pour ça que votre premier livre, Dans les beaux quartiers, était indisponible. Et de l'avoir réédité, c'est merveilleux. On va remercier les deux éditeurs.
Ah, oui, c'est chouette, ouais.
Voilà, parce que ça nous donne une clé d'accès à votre travail par la suite. Mmh. Et ça nous donne une clé d'accès de compréhension de votre démarche. Mmh. Parce que vous continuez toujours. Mmh. Même si M. Pinson n'est plus là, vous êtes toujours sur le même projet.
Toujours, avec effectivement le même système théorique qui allie le marxisme et avec la théorie de l'exploitation et la théorie de la domination que Bourdieu a vraiment développée d'une façon tout à fait magistrale, voilà, extraordinaire. Et du coup, on avait Norbert Elias, on avait plein de grands auteurs en sociologie, Jean-Claude Chamboredon, Jean-Claude Passeron, enfin, beaucoup d'auteurs qui nous apportaient beaucoup et que nous n'avions qu'à instrumentaliser, mm-hmm. qu'à utiliser en application avec notre projet à nous.
Mm-hmm. Alors, nous avons reçu... Il y a une pause ?
Oui, on va faire une pause.
D'accord.
Voilà, et donc on va écouter les Rosies, taxons les riches, hein, puisque dans les manifs, elles se sont fait remarquer et je trouvais que c'était pas mal de parler de taxons les riches.
Oui.
Les riches sont de plus en plus riches, super profits. Jet privé, yacht et fusée. Ils ravagent la planète et nos vies. Mais paie moins d'impôts que nous autres. Donc taxons les riches. Taxons les riches. Qu'ils rendent nos milliards pour l'intérêt général. Les milliardaires sont des profiteurs. Assister d'aide publique, des fraudeurs. Ils ont des super héritages, ils contrôlent les médias. Leurs revenus s'envolent comme les injustices. Récupérons ce prix pour les services publics, la protection sociale, l'égalité, l'éducation, l'écologie, les droits des femmes, etc., etc. Taxons les c'est d'intérêt général, mais quelle idée géniale. Taxons les riches, fini les inégalités, la terre est sauvée. Taxons les riches, c'est d'intérêt général. Taxons les riches, mais oui, quelle idée géniale, ensemble on y arrivera. Sans les essentiels, le système s'arrête,
Nous on prend soin du monde, première de corvée. Nous valons de l'or, notre utilité n'est pas cotée en bourse. Pendant que les milliardaires nous pompent, 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 pompent l'air. Récupérons ce prix pour les services publics, la protection sociale, l'égalité, l'éducation, l'écologie, les droits des femmes, etc., etc.
Tax the rich, tax the rich, tax the rich.
Hey, hey, hey.
Tax the rich, tax the rich, tax the rich.
Il est
rich, tax the rich, tax the rich.
Intérêt général.
Tax the rich, tax the rich.
Général. Mais quelle idée géniale! Taxons les riches, fini les inégalités. La terre est sauvée.
Taxons les riches.
C'est d'intérêt général.
Taxons les riches.
Mais oui, quelle idée géniale! Ensemble on y arrivera.
Alors, on vient d'écouter Taxons les riches des Rosies. On est toujours dans l'émission Femmes libres et dans un entretien commun entre Mariama pour l'émission Pas de quartier et puis Hélène pour l'émission Femmes libres. Un entretien avec Monique Pinson-Charlot. Alors, le livre Dans les beaux quartiers s'organise en trois parties. Hein. Une première partie qui est importante évidemment pour placer où ils vivent, c'est des espaces à part pour un monde à part. Voilà. Alors, des appartements hors du commun, un espace résidentiel restreint, à chaque élite son espace, le bien-être de l'entre-soi et la conquête de l'Ouest. Alors, ce titre-là, il est super. Et c'est ça que tu disais, c'est que au départ, les riches étaient plutôt dans le marais, hein,
oui.
Et qu'ils ont migré, ce sont des migrants hein, quand oui. même, il faut oui. le reconnaître, hein,
oui, oui.
Ils ont migré
hors catégorie.
Vers l'ouest, et puis se sont arrêtés en gros à Neuilly.
Oui, à Neuilly, mais même plus loin,
un peu plus loin, mais
Viroflay, oui. Le Vésinet, Saint-Germain-en-Laye, parce qu'en fait, c'est
Saint-Gère, on dit Saint-Gère, à Saint-Germain-en-Laye, on dit Saint-Gère.
Ils se sont, ce déplacement s'explique par l'installation de Louis XIV à Versailles. C'est le château de Versailles qui a fait cette
migration.
Alors, la deuxième partie, c'est du domicile aux équipements collectifs. Et là, c'est la question de la transformation des modes de vie privilégiés avec le déclin des formes privées de la vie quotidienne, le réaménagement de l'habitat bourgeois, puis un espace et des équipements sous contrôle. En fait, il y a une modification, et ça, tu le dis bien, hein, une modification, ne serait-ce que parce que depuis la Première Guerre mondiale, petit à petit, tout le personnel domestique a diminué dans l'habitat des propriétaires. Hein, petit à petit. Et tu le marques peut-être encore plus fortement entre les deux guerres.
Hein. Oui, c'est-à-dire que la domesticité était effectivement très abondante parce qu'elle n'était pas chère.
Oui,
hein,
oui.
Et donc c'est au fur et à mesure de l'évolution de la contestation sociale, de l'amélioration des salaires du personnel domestique, que et parallèlement avec toutes les améliorations technologiques,
la machine à laver,
voilà, le frigidaire, enfin, etc. que c'est un ensemble qu'on décrit et qui explique cette diminution du personnel domestique, mais qui s'est aussi transformé, c'est-à-dire que il y a eu parallèlement l'utilisation des traiteurs, enfin une domestication commercialisée qui venait remplacer le quotidien des domestiques à la maison.
Et puis, dans cette dernière partie, ça se termine par « Châtelain de toujours, châtelain d'un jour ».
Voilà, et je voudrais lire un passage du livre fait par Monique
et Michel.
C'est un chapitre qui s'appelle « Perdre le château, c'est perdre son identité ». Alors, quand on lit le titre, déjà, on est mort de rire. Alors, « Vendre le château, c'est beaucoup plus que de se séparer d'un bien immobilier. Surtout lorsqu'on en porte le nom, on perd avec lui un peu de son identité, comme le souligne le marquis de Breteuil. Je suis si profondément enraciné dans la culture de la France, mon pays, et le terroir de Breteuil, que je ne conçois même pas comment je pourrais respirer ailleurs. » Non, mais les bras vous en tombent.
Ben non. C'est normal que tu dises ça, mais quand on les connaît, quand on travaille avec eux, quand on a les hypothèses de travail que nous avons mis en œuvre dès le départ, c'est-à-dire que nous ne sommes pas devant des histoires familiales d'assez court terme à l'échelle d'une ou deux générations, nous sommes là devant des dynasties familiales, de l'aristocratie, de la noblesse d'un côté, de l'autre côté à partir de donc lié au capital foncier, disons, dont la richesse a été fondée quand même massivement sur le capital foncier. Après la Révolution française, donc la bourgeoisie prend le dessus avec le capital industriel et la révolution industrielle des 19e et 20e siècles. Et puis, notre travail avec des étudiants, ça a été précisément dans la partie historique de montrer comment, petit à petit, les familles de la noblesse et les familles de la bourgeoisie, qui finalement, après la Révolution, n'a rien fait d'autre que de singer la noblesse en constituant à son tour des quartiers de bourgeoisie, donc des dynasties, et comment, au final, aujourd'hui, tout ça est très, très entremêlé. Mmh. Si vous regardez le bottin mondain, vous avez peut-être, je ne sais pas, enfin, il y a beaucoup, évidemment, de nobles, mais je pense qu'il y a tellement beaucoup aussi de bourgeoisie que c'est vraiment très, très entremêlé. Et ça, c'est drôlement important pour comprendre notre travail. C'est-à-dire que nous avons travaillé sur l'immortalité symbolique que représente l'idée de la dynastie, des dynasties, dont le résultat fait que rien ne peut ruisseler,
surtout pas
pour les classes moyennes et les classes populaires. C'est-à-dire que ils récupèrent, ils héritent et ils doivent être dignes de cet héritage avec une éducation spécifique pour être aptes à capter l'héritage. Ils héritent de l'héritage. Eux, quand on arrivait, qu'on allait les voir, ils nous disaient « Oh, vous croyez qu'on est des propriétaires, on est sûr que vous vous dites ça ?» Et puis ils nous disaient « Vous vous trompez, non, parce que nous qui sommes là face à vous, on est des usufruitiers. » C'est-à-dire, donc, ils se vivent comme c'est provisoire. Ils ont ces titres de propriété qui, sous le système capitaliste, leur permettent d'exploiter toutes les formes du vivant,
oui,
êtres humains et la nature, animaux compris, et les végétaux, tout ce qu'on voit aujourd'hui avec le dérèglement climatique,
oui,
toutes ces prédations. Et puis, et ensuite, il faut qu'on essaye d'enrichir ce dont on a hérité et qu'on doit le transmettre aux générations suivantes. Et du coup, ça nous apprenait beaucoup, beaucoup de choses. Donc, sur le rapport à la mort, parce que l'immortalité symbolique, c'est finalement beaucoup plus sûr qu'un hypothétique au-delà. Hein. Le roi est mort, vive le roi. Ça montre bien que la continuité dynastique est plus importante que la finitude humaine. Donc il y a quelque chose qui est rassurant d'une certaine façon. Et puis
oui, mais le 4 août aussi c'est rassurant. La nuit du 4 août. Et apparemment on n'en a pas entendu parler ou très vaguement.
Si. Mais enfin voilà. Et puis ça nous permettait aussi de comprendre pourquoi ils disent jamais je.
Oui.
Quand ils parlent,
c'est nous. Mm.
Et puis quand ils parlent d'autres, ils diront vous. Mm. Hein, le vouvoiement. Mm. Et donc, dans les classes moyennes, enfin, dans le milieu des chercheurs, plutôt, ils étaient moqueurs vis-à-vis de ce vouvoiement, y compris des parents vis-à-vis des enfants et des enfants vis-à-vis de leurs parents. Mais en réalité, si on est bon sociologue, ça s'explique précisément parce qu'ils sont toujours, toujours dans le collectif. Ils sont toujours dans cette forme de communisme et de solidarité. Mm. Et c'est par tout ce travail d'ethnologues, c'est-à-dire nous avons vraiment partagé leur vie, que nous pouvions comprendre exactement ce que ça voulait dire que de faire ensemble, d'être responsable des biens dont vous héritiez et que vous deviez transmettre.
Ils sont beaucoup plus unis que leurs adversaires, qui sont nettement plus nombreux, parce qu'eux, ils sont à peine 1%, nous, on est 99%. Et c'est peut-être pour ça que, pour l'instant, ils tiennent le haut du pavé.
Ben, c'est-à-dire que ben, c'est là, il faut s'interroger après sur nous. Hein, comment se fait-il que, si nombreux que nous soyons hyper divisés, y compris jusque dans les choix politiques, au sein même de ceux qui se disent contestataires du système capitaliste, hein, pour être que des querelles
de chapelle.
Oui, de chapelle. Enfin, c'est aujourd'hui avec toutes les guerres qui se déclenchent de partout, tout nous donne raison et tout nous pousse précisément à faire ce sur quoi je travaille en ce moment, sur la psychothérapie institutionnelle et notamment par rapport aux partis politiques, toutes les institutions, hein, tout être humain doit être susceptible d'être concerné par l'introspection psychique. Alors surtout quand on est militant, c'est important de savoir pourquoi on s'engage, quelles sont les raisons, etc. Et puis les institutions, c'est pareil, les institutions, partis politiques, syndicats, toutes les institutions, les écoles, on voit tout ce qui se passe. Tout nous donne raison dans ce qu'on devrait analyser de manière introspective à des fins psychiques, à des fins de solidarité, afin d'aboutir à quelque chose qui soit beaucoup plus humain que et beaucoup plus dans l'altérité, la solidarité, pour construire ensemble une voie post-capitaliste.
Alors, tu parlais de l'école, et évidemment, j'ai en tête Betaram, qui aurait dû être de l'entre-soi fermé, hein, fermé. On n'aurait jamais dû savoir qu'est-ce qui s'y passait, et finalement, qui a explosé aussi. Donc, est-ce que avec l'affaire Betaram et puis d'autres écoles catholiques intégristes, hein, on peut le dire, est-ce que ça préfigure pas des failles sur lesquelles on devrait avoir l'œil?
À ça, on ne peut que dire oui, mais faut-il encore que nous le fassions? Je veux dire, faut-il encore qu'il y ait cette motivation, cette solidarité entre nous pour vraiment arriver à faire comme ça se passe dans cette classe sociale, c'est-à-dire que chaque individu a comme mission de défendre les intérêts de sa classe.
Oui.
Il peut choisir de travailler où il veut, pourvu à deux conditions. Un, qu'il soit vraiment, s'il veut travailler par exemple dans une école, dans une école catholique, il faut qu'il soit directeur d'une très grande école catholique. Enfin voilà, qu'il soit vraiment au niveau ou ministre de l'éducation nationale. Et deuxièmement, qu'il...
Il y en a qui cochent toutes les cases, oui. Ministre voilà. Et puis directeur, oui.
Voilà, et que dans son travail, vraiment, il défende les intérêts de sa classe. Et puis après, donc chacun fait voilà, ce qu'il veut au plus haut niveau, là où il est bien. Et puis après, il y a des instances de coordination très importantes, c'est-à-dire qui sont multiples, et qui viennent coordonner les actions de tout un chacun. Et nous, qui sommes les plus nombreux, donc on devrait vraiment avoir plein d'instances de coordination. Ben ici, votre radio libertaire, pour moi, c'est une instance de coordination.
Ah, hein? Merci.
Ben oui.
Ah, ça, on nous a dit beaucoup de choses, mais ça, c'est unique. Merci.
Ben oui.
Merci,
parce
Monique.
Que vous m'avez invité. Oui. Vous pouvez inviter des gens divers
bien
et
sûr,
variés. Votre public est divers et varié.
Oui.
Et du coup, voilà, c'est comme ça que la mayonnaise de la solidarité peut devenir un petit peu plus solide. Et au-dessus de votre radio, par exemple, il devrait y avoir, peut-être que ça existe, hein, des radios qui se fédèrent.
Oui, voilà. Ça existe.
Voilà.
Oui.
Et tout ça va vraiment dans le bon sens, hein, bon sens de la solidarité.
Alors, pour rester sur les écoles, vous citez dans le livre une école à Neuilly qui est une école publique,
oui.
Mais avec que des gens de la haute bourgeoisie et de la noblesse.
Aucun prolétaire dedans.
Voilà, y a, les prolétaires.
Non, mais il y a des enfants de concierge.
Voilà, les enfants des domestiques.
Oui.
On les accepte. Hein.
On les tolère, voilà. Tu veux dire.
Mais c'est quand même incroyable d'arriver à
privatiser tout.
À privatiser même un espace qui est réellement public. Une école publique, c'est une école publique.
Oui. Alors cette école publique, elle est située au bout de la rue de Labordère,
oui.
où habite notamment la famille, où habitait en tout cas Liliane Bettencourt et sa famille, où habitait en tout cas dans notre époque Francis Bouygues et bien d'autres très grandes fortunes, des patrons du CAC 40. Et en effet, donc cette école, du coup, elle fonctionnait en fait avec des instituteurs qui relèvent du public. L'école était publique, mais elle fonctionnait en fait comme une école privée, c'est-à-dire que les parents suivaient de très près l'éducation de leurs enfants, et ça ne les dérangeait pas qu'il y ait les enfants de gardiens ou de concierges ou de domestiques, parce que en réalité ça valorisait encore plus leurs enfants, et puis ils pouvaient faire de la charité. Ils étaient solidaires, quoi. Pour les voyages, par exemple, ben, ils payaient, ils contribuaient au financement des voyages de ceux qui ne pouvaient pas.
Ils avaient leurs pauvres.
Et puis,
voilà.
Ils faisaient leur BA, quoi.
Voilà.
Ouais. Et donc, ben, ils intervenaient, y compris dans le choix. Dans le choix des manuels, par exemple, là, dans le livre, on donne l'exemple, c'est Michel le baron de Fauville, c'est un pseudonyme, le baron de Fauville, qui dit que quand son fils est arrivé avec un livre pépé dans les HLM, ah, il a dit ça, c'est pas possible. Et donc le lendemain, il venait à l'école et il est arrivé à faire retirer le livre, et voilà.
Alors, si on prenait une actualité, Monique,
oui.
La taxe Zuckman,
oui.
2% sur les patrimoines des plus aisés, exceptionnel. Beaucoup ont dit 2%, ils ont fait un barouf pas possible. Mais 2%, c'est ce qu'on devrait leur laisser, tellement ils sont riches. Oui. Qu'est-ce que tu en penses?
Je trouve que ça serait une bonne proposition. Moi, ce que j'en pense, c'est que je suis pas du tout contre cette taxe, parce que tout ce qu'on peut ramasser, tellement ils fraudent le fisc, tellement ils ne respectent absolument pas les lois de la République. Alors, c'est très documenté. Hein.
Oui.
Il y a eu, nous, on a fait un livre sur la fraude fiscale des plus riches.
Tout à fait.
Les frères Bocquet ont fait aussi un ou plusieurs livres. Il y a beaucoup, le syndicat solidaire de Bercy, je me souviens très bien du président de ce syndicat, Vincent Drézé, pareil. Eh bien, si vous voulez, tous, on était à peu près d'accord sur les mêmes chiffres.
Tout à fait.
C'est-à-dire que la fraude fraude fiscale des plus riches représentait à ce moment-là entre 80 et 100 milliards d'euros par an qui manquaient dans les caisses de l'État.
Le budget de l'éducation nationale.
Voilà, tandis que la taxe Zucman, elle, ça pourrait rapporter au mieux 15 à 20 milliards d'euros par an.
Et ils ont crié au loup.
Voilà. Et attends, c'est que j'ai d'autres enveloppes. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'enveloppe de 100 milliards d'euros des niches fiscales.
Oui.
Niches fiscales qui profitent massivement aux plus riches. On a découvert dans nos enquêtes, en étant aidés au plus haut niveau, une ligne comptable qui s'appelle les modalités particulières de calcul de l'impôt. C'était 100 milliards d'euros à l'époque de Nicolas Sarkozy.
L'époque du bouclier fiscal qui ne devait pas dépasser 50%.
Voilà, tu es parfaite. Et puis plein d'autres choses. Donc là, il y avait. Donc on a eu les Offshore Leaks, LuxLeaks, Swiss Leaks, Panama Papers. On a eu plein de choses comme ça qui sont sorties. Et on a compris que c'était énorme, la fraude fiscale à l'échelle de la planète. Puis, tout d'un coup, hop, on fait ressortir la taxe Zucman et on met tous les feux vers cette initiative que j'approuve, mais à condition qu'elle soit mise en relation avec tout le reste.
Comme la découverte qu'il y a près de 50 000 foyers qui payent zéro d'impôt parce que leurs holdings sont dans les paradis fiscaux fondateurs de l'Union européenne comme le Luxembourg et qui se payent rien là-dessus. Et donc, ils peuvent légalement marquer zéro sur la feuille d'impôt alors qu'ils sont des ultra-riches. Mais vous, si vous avez le malheur de ne pas payer votre quote-part d'impôt, vous inquiétez pas, on vous rattrapera.
Alors, on va écouter Michèle Bernard, fille d'ouvrier. Là, c'est l'inverse.
Au vermeil, brune ou blonde, bébé mignon, dans les larmes, ça vient au monde, cher à Guignon. Ébouriffé, suçant son pouce, jamais lavé, comme un vrai champignon, ça pousse, cher à pavé. À 15 ans, ça rentre à l'usine sans éventail. Du matin au soir, ça turbine, cher à travail. Fleur des fortifs, ça s'étiole quand c'est giron. Dans un guet-apens, ça se viole, cher à patron. Jusque dans la moelle pourrie, rien sous la dent. Alors ça rentre en brasserie, cher à client. Ça tombe encore de chute en chute, honteuse un soir. Pour un franc, ça fait la culbute, cher à trottoir. Ça vieillit et plus bas ça glisse un beau matin. Ça va s'inscrire à la police, cher à Roussin. Ou bien sans carte, ça travaille dans sa maison. Alors ça se fout sur la paille, cher à prison. D'un mal souffrant le supplice, vieux et tremblant, ça va geindre dans un hospice, cher à savant. Enfin, ayant vidé la coupe, bu tout le fiel, quand c'est crevé, ça se découpe, cher à scalpel. Patron, t'as des lieux gabales, des froids saisis, quand vous tomberez sous nos balles, cher à fusil. Pour que chaque chien sur vos trognes pisse à l'écart, nous leur laisserons vos charognes, cher à Macar.
Voilà, on vient d'écouter Michèle Bernard, fille d'ouvrier. On est toujours dans l'émission Femmes Libres et c'est toujours une émission en co-animation avec Mariama de Pat Cartier
Et on est toujours évidemment sur Radio Libertaire pour accueillir Monique Pinson-Charlot pour son livre « Dans les beaux quartiers ». Je me posais une petite question sur les relations entre les patrons dans les maisons, hein, donc chez ces riches et chez grands bourgeois, avec les domestiques femmes, puisqu'on vient d'écouter la chanson là. Dans le livre, vous ne l'avez pas du tout évoqué, cette partie-là.
Non, mais nous ne l'avons jamais même documenté ni vécu.
Oui.
Donc c'est parce que nous étions très concentrés sur la construction de ce communisme de luxe et de pouvoir que nous étions très concentrés sur tout ce qui touchait à leur niveau de richesse et à leur niveau de solidarité entre eux.
Entre eux, voilà. Oui. C'est ça.
C'était vraiment ça qui nous intéressait le plus.
Oui. Et alors, la dernière partie du livre sur les rallyes et les cercles, ou les élites entre elles, qu'en est-il des rallyes aujourd'hui, là, en 2026?
Mais rien n'a changé.
Rien n'a changé.
C'est exactement ce qui est écrit.
Ouais. Ça n'a pas pris une ride.
Non, pas une ride. Ni les cercles, ni les rallyes.
C'est ça, une belle enquête sociologique. C'est-à-dire que dans 100 ans, on pourra dire, sauf si la révolution a eu lieu, et qu'on a réussi, on pourra dire que c'est toujours d'actualité.
Ouais.
1989, 2026...
36 ans, non ?
Oui.
37 ans.
Ça n'a pas pris une ride.
Ouais.
C'est incroyable.
Ouais. Et bien ça devrait...
Nous porter à conscience, nous, les 99% restants. On se dit, mais on a échoué à ce point-là.
C'est-à-dire que du fait qu'on n'arrive pas à s'unir, qu'on n'arrive pas à communiquer, qu'il y a quelque chose du capitalisme dans nos têtes, franchement, au nom de, pourtant plutôt de bonnes idées, de partage et tout ça.
Oui.
C'est,
ah oui, les bonnes idées, elles ne manquent pas dans notre camp. Il y a même que ça.
C'est
la mise en application qui pose problème.
C'est vraiment d'arriver à faire, je le redis, hein, de la psychothérapie institutionnelle, de comprendre comment c'est possible que eux, ils y arrivent en haut. Alors ok, ils ont toutes les richesses et tous les pouvoirs, c'est quand même plus facile.
Mmh.
Ils ont aussi les forces de l'ordre pour les soutenir quand il y a trop de contestations, etc. C'est quand même nous qui faisons fonctionner l'économie réelle, c'est quand même nous qui les nourrissons, donc je veux dire c'est quand même
c'est eux les parasites finalement, et c'est ce que dit Nicolas Framont.
Oui, exactement.
Donc, oui. Il parle des parasites, oui. Et il a sa revue qui s'appelle
Frustration.
Donc, tout est dit.
Oui.
Son dernier livre se vend très bien à Publico, notre librairie chérie, 145 rue Amelot.
Oui.
Dans le 11e, c'est San Luigi. C'est sur le meurtre par Luigi du patron des assurances américains. Procès qui va commencer au mois de juin, puisqu'il a obtenu de ne pas avoir la peine de mort, je crois, cet homme.
Je ne sais pas, je n'ai pas suivi. J'ai lu son livre, mais je n'ai pas suivi.
J'ai suivi un tout petit peu cette affaire. Alors, je voudrais, si nous avons le temps, c'est possible, je voudrais qu'on lise le quatrième de couverture qui résumera bien tout le propos de Monique. Entre Trocadéro et Monceau, Neuilly et Passy, vivent les grandes familles. Dans ces quartiers de l'Ouest parisien se concentrent les héritiers des lignées aristocratiques et des vieilles dynasties bourgeoises. L'élite sociale pratique l'entre-soi au rythme de ses rites. À la fin des années 80, Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot parcourent ces beaux quartiers, interrogent les représentants de ces groupes privilégiés. Grâce à une enquête fouillée et minutieuse, ils en révèlent la vie quotidienne, racontent les rallyes pour adolescents, pénètrent des cercles très fermés. Par ce voyage ethnologique, ils dévoilent un monde d'ordinaire interdit aux profanes et expliquent pourquoi le Gotha se rassemble dans un ghetto. Près de 4 décennies plus tard, cet ouvrage devenu une référence en sociologie se pose comme un texte fondateur dans la compréhension et l'analyse de ces élites que nous appelons
aujourd'hui les ultra-riches.
Mais c'est bien. Voilà. Ça, c'est, en principe, la quatrième de couverture, c'est l'éditeur.
Oui,
mais
oui,
la responsabilité, elle est super. Mais...
Oui, mais dans la conclusion du livre, là, on peut dire que...
On ne va pas la spoiler.
Non, non, mais on peut dire quand même, puisque oui, on en a parlé tout au long de l'émission, là, que la reproduction sociale, c'est l'héritage économique, l'héritage du capital social, l'héritage culturel et l'héritage des dispositions qui font l'excellence sociale. Mmh. Hein, tout ça, c'est voilà, c'est ça qui va faire cette reproduction sociale. Mmh. Hein.
Oui, et ça, c'est vrai que c'est très, très fort. Le travail qu'ils font, on n'en a pas parlé au cours de cette émission, mais le travail qu'ils font dans l'éducation, sur le travail sur le corps.
Oui. Hein,
la guerre
oui.
de classe, c'est aussi une guerre de corps.
Oui.
Et qui fait que ça facilite la transmission, puisque c'est des corps de classe qui sont minces, redressés, qui sont... Il n'y a pas de frange, le port de tête est altier. Et ce sont des corps bien nourris, ce sont des corps qui font beaucoup de sport, il y a toute une fabrication vraiment très attentive, et il y a une raison derrière qui est essentielle. C'est-à-dire que, à travers ce travail sur le corps, il s'agit transformer l'arbitraire absolu de leurs privilèges qui ne tient qu'au système capitaliste. C'est le système capitaliste qui, avec les titres de propriété, permet d'exploiter toutes les formes du vivant. Et eux, ils veulent le transformer. Ils arrivent, avec toute cette mobilisation, à le transformer en qualité innée, en qualité naturelle. Et qui fait que les plus pauvres, les dominés, finissent par se dire ben, « c'est normal qu'ils se déclarent comme les meilleurs, qu'ils aient tous les avantages pour eux, qu'ils soient riches, que les milliardaires puissent doubler leur fortune depuis 2017 qu'Emmanuel Macron est président de la République, etc. » Cette acceptation, elle passe par cette violence, par cette forme de mépris de classe qui se dégage de ceux qui se vivent comme étant les meilleurs, supérieurs aux autres, avec une excellence naturelle.
Ça n'a rien de naturel, tout est fabriqué,
voilà.
Tout est faux.
Tout est construit.
Tout est construit. À partir du moment où on l'a compris, on peut mieux les combattre. Et Monique, le premier jalon pour combattre, c'est de savoir et de comprendre. Et vous avez fait le premier jalon. C'est à nous de nous en emparer, d'où cette invitation, parce que la radio permet de populariser et de répandre votre parole à Michel et à toi. On t'en remercie. Et c'est à nous de prendre conscience de ce qu'est notre adversaire et d'aller au combat en toute connaissance de cause.
Et le combat c'est tout de suite et maintenant.
on est vraiment au pied du mur.
Oui,
on est vraiment au pied du mur.
Merci beaucoup, Monique. On va terminer avec aussi une très belle chanson du temps de la grève des sardinières.
Ah, à Douarnenez.
C'est Marie-Aline Lagadi et Clairvie Rivière qui chantent « Saluer riches heureux ». Et les sardinières ou les ouvrières ou les ouvriers d'ailleurs n'avaient pas le droit de chanter cette chanson en travaillant. Mais pendant la grève des sardinières, elle était chantée.
Chaque matin au lever de l'aurore, voyez passer ces pauvres ouvriers, la face blême et fatiguée encore. Où s'en vont-ils se rendre aux ateliers? Petits et grands, les garçons et les filles, malgré le vent, la neige et le grand froid, jusqu'aux vieillards et les mères de famille, pour le travail, ils ont quitté leur toit. Saluez, riches heureux, ces pauvres en royaume,
Saluez ce centre qui gagne vos millions, ces ouvriers en quittant leur demeure, sont-ils certains de revenir le soir? Car ils n'ont pas de jour ni même d'heure que l'on envoie victime du devoir. Car le travail est un champ de bataille où l'ouvrier est toujours le vaincu. S'il est blessé, qu'importe qu'il s'en aille,